France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Amour, je rentre tard, mais demain c'est dimanche. Nous irons danser au bal des oiseaux, près de la rivière, près de l'eau. Le bal des oiseaux de Thomas Fersen, c'était il y a 30 ans, figurez-vous. Thomas Fersen sera mon invité à partir de 13h. Mais pour commencer, on se met en mode critique. Deux romans qui viennent tout juste de paraître sont au menu de cette première partie des midis. Le nouveau Neige Sino, La Realidad, chez POL. Et le 12e roman de Karine Thuil, La Guerre par d'autres moyens, chez Gallimard. Et pour en parler aujourd'hui autour de la table, Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice de Point Culture sur France Culture.
Bonjour Marie.
Et Johan Farber, éditeur, essayiste et critique littéraire.
Bonjour Marie.
Bonjour et bonjour également à Carole Boinet, directrice de la rédaction de notre partenaire Les Inrecuptibles.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les trois. À peine 18 mois après la sortie du retentissant Triste Tigre, Neige Sino revient avec La Realidad chez POL, un livre d'ailleurs qu'elle avait écrit en espagnol avant Triste Tigre. La Realidad ici, c'est d'abord le nom d'un village au Mexique. Deux jeunes filles européennes à la toute fin des années 90 entreprennent un voyage pour le trouver car elles ont entendu dire que l'insurgé zapatiste, le sous-commandant Marcos, s'y trouve. On comprend que Neige Sino est une de ces deux voyageuses et ce périple vers la région du Chiapas, elle l'entreprendra plusieurs fois. Le livre est donc un récit de voyage, un récit de l'altérité, un récit initiatique aussi, où l'autrice cherche à se rapprocher du réel, elle qui a si longtemps, dit-elle, eu le sentiment d'être en dehors du monde. On commence avec un avis rapide, Johan Farber.
Oui, alors moi j'ai été très agréablement surpris par ce récit. J'avais beaucoup d'attentes après Triste Tigre et je trouve ça assez remarquable qu'elle n'ait pas trop attendu pour sortir un récit qui est totalement déroutant par rapport à Triste Tigre. Et c'est bien moi ce qui m'a permis de comprendre qu'en fait c'était véritablement là qu'on assistait à la naissance d'une écrivaine, d'une véritable voix singulière qui n'avait pas peur d'explorer des choses inattendues et qui faisait de son récit de formation finalement une sorte de quête à la fois du réel et de la littérature. Moi, j'ai été totalement séduit.
Marie Sorbier.
Bon, alors moi, je vous avoue, j'ai eu du mal à m'intéresser à ce livre. Même si la fin est plus convaincante que le début, on reviendra, il y a quand même un premier chapitre que j'ai trouvé vraiment catastrophique. J'ai eu très peur. Et puis, plus ça avançait, plus vers la fin, il y a des idées qui m'ont intéressée. Mais l'ensemble m'a paru quand même très adolescent, avec des interrogations redondantes. Hein. Elle répète beaucoup, ce n'est pas ma lutte, ce n'est pas mon combat. Mais en fait, on n'arrive pas à percevoir ce que c'est, j'ai l'impression. En fait, qu'elle-même n'arrive pas à écrire ce livre et qu'elle est devant une impossibilité et vraiment dans une impasse. Et parfois, les impasses sont fertiles et fécondes. Mmh. Mais là, ça m'a paru vraiment être devant un mur, quoi.
On va écouter un extrait de La Realidad de Neige Sino qui est lu par Théa Corlaire.
Maga, Marcos, Barbara, le Pokémon et les autres. Ça a commencé par une histoire de livre. Moi, je ne voulais pas les prendre, mais Maga a tellement insisté que j'ai fini par céder. Dans nos sacs à dos, on avait mis le moins de choses possible. On partait pour 3 mois, il valait mieux voyager léger. Elle avait quand même réussi à caser 2 gros volumes de théorie marxiste qu'elle voulait faire parvenir au sous-commandant Marcos. La façon dont elle a mené cette affaire de livre dit beaucoup de sa personnalité. À l'époque, il me manquait des éléments pour vraiment la connaître, mais j'ai quand même compris que je ne pouvais pas lutter. On s'était rencontrés quelques mois auparavant, dans un café du campus de l'Université du Michigan. Un autre prof de langue nous avait présenté. « Il y a une fille qui est arrivée ici pendant que tu étais en France », m'avait-il dit. « Tu vas voir, tu vas l'aimer. » Elle n'avait que 2 ans de plus que moi, c'est-à-dire 27 ans, mais elle avait déjà beaucoup voyagé. Avant de l'aimer elle, j'ai aimé sa fougueuse énergie. J'ai aimé en elle tout ce qui m'était étranger. Son extravagance, son assurance, sa sauvagerie. Elle me déroutait. J'essayais de comprendre comment fonctionnait son laboratoire mental pour qu'elle en arrive toujours à des conclusions si inattendues. Elle était imprévisible. Elle était libre.
Voilà un extrait de La Realidad de Neige Sino. Johan Farber, 18 mois, on l'a dit, après Triste Tigre. Qu'est-ce qui vous fait dire avec ce livre que vous avez le sentiment d'assister à la naissance d'un écrivain, d'une écrivaine?
Alors, on y assistait évidemment, bien sûr, dans Triste Tigre. Je crois que le succès public et critique qui a marqué la sortie de ce livre a parfaitement saisi l'importance de ce récit, une importance littéraire, mais aussi sociale et politique, qui a peut-être justement éclipsé la part d'écriture de Neige Sino, qui, je trouve, ici, aboutit et très abouti, arrive à sa pleine expression et à sa pleine réalité. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est en fait, finalement, une sorte d'envers de Triste Tigre, c'est-à-dire que la littérature joue toujours le même rôle. La littérature, comme dans Triste Tigre, est un guide. Dans Triste Tigre, on se souvient des passages très très porteurs, sur très féconds, sur Lolita de Nabokov. Ici, ces deux objets littéraires, c'est Antonin Artaud et Jean-Marie Gustave Le Clésio. Et elle se sert de la littérature, je dirais, toujours dans un triple rôle, politique, social, mais aussi moral. Et je crois que ce qui est vraiment très intéressant dans son écriture, c'est qu'elle est extrêmement modeste, anti-héroïque, et que précisément, comme le rappelait Marie Sorbier à l'instant, elle se pose énormément de questions et surtout, elle a très peur d'apporter des réponses. Et je pense que cette très grande fragilité, cette très grande prudence montre combien, finalement, l'entreprise d'écrire est une entreprise qui est à la fois stimulante mais aussi effrayante. Et je trouve que la manière dont elle se saisit de l'écriture comme grille d'interprétation du réel, comme grille d'exploration de soi, comme voyage dans le sensible, en fait un livre, je trouve, dont le prix est mesurable aujourd'hui, mais qui va grandir avec les années. Et je pense que la manière de poursuivre son œuvre, de ne pas proposer une sorte de sequel à Triste Tigre, je pense que là, pour moi, c'est vraiment le geste le plus fort qui installe ce livre.
Marie Sorbier.
Oui, on parle de Triste Tigre, mais il faut dire qu'il n'y a aucune référence puisque le livre a en partie été écrit avant. Donc, on peut lire tout à fait ce livre-là sans connaître rien de Nashido, même s'il y a des gens qui n'ont pas encore lu Triste Tigre. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà. En tout cas, ça n'a rien à voir. Et ça, pour le coup, j'étais assez séduite parce que j'avais très peur, en effet, de l'effet du deuxième livre. Après un énorme succès, on attend toujours quelque chose qu'on a eu dans le premier, etc. Là, il faut lui reconnaître, elle est partie dans complètement autre chose, c'est-à-dire ses amours pour le Mexique. Elle y a vécu longtemps, mais là, elle nous raconte plutôt ses premières amours, c'est-à-dire comment elle y est allée, avec le passage qu'on vient d'entendre, avec une amie, elles sont des jeunes adultes, et moi, ce premier chapitre, quand je vous disais que j'ai eu très peur, c'est que vraiment, j'avais l'impression de lire un livre écrit par une jeune fille de 18 ou 20 ans, avec toute cette naïveté, alors qui peut être très belle, mais là, qui m'a paru quand même assez lourde, en fait, et sur le premier chapitre est assez long, donc c'était un peu désobligeant à lire. Je sais pas, moi j'avais l'impression de pas avoir à lire ça, tellement c'était écrit comme un journal intime. Et puis après, elle raccorde un peu ce qu'elle fait habituellement et qui est, je trouve, alors pour le coup, sa patte d'écrivaine aujourd'hui, c'est-à-dire elle mêle l'autobiographie et la non-fiction, alors la non-fiction au sens très large. Et en effet, Joanne, vous parlez de la littérature, elle s'en sert, mais elle se sert de plein d'autres choses, et notamment aussi de l'anthropologie. Et je crois que c'est là où moi j'ai été agacée, et ce qui m'a sorti profondément du livre, parce que pour elle, quand même, elle affirme que l'anthropologie a forcément des visées colonialistes. Alors, certes, il y en a eu, mais l'anthropologie ne se réduit pas à ça. Elle le répète plusieurs fois. Or, elle-même, dans ce livre-là, disons dans la deuxième partie, se pose comme une potentielle anthropologue, dans le sens où elle est sur un terrain à l'étranger, un endroit qu'elle ne connaît pas. Et ce que font les anthropologues, c'est être ailleurs que chez soi, et ils regardent, ils observent et ils notent leurs observations. C'est exactement ce qu'elle fait dans ce livre. Elle note ses observations de comment vivent les gens, de ce qu'elle ne comprend pas. Donc tout ça pourrait être très intéressant, sauf que elle se borne, en fait, elle freine à cet endroit-là et elle se borne aux observations. Elle refuse, en effet, de répondre aux questions. Elle refuse de tirer une quelconque théorie de tout ce qu'elle voit. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça très frustrant, en disant, alors elle nous balance un certain nombre de phrases de contestation de ce qu'elle a vu, en fait, et elle n'en fait rien, et donc j'ai été frustrée, et au bout d'un moment je me suis ennuyée de voir juste des parties prises, enfin des, elle a vu quelque chose, elle le raconte, point, elle s'arrête là, et elle justifie en disant, et c'est là où le je revient, en disant, ce n'est pas mon combat, ce n'est pas ma lutte, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vous raconte quand même. Et il y a quelque chose dans ce hiatus-là qui m'a vraiment gênée au fur et à mesure où le livre se déployait. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle veut faire, en fait? Quel est le livre qu'elle veut écrire? Et j'ai pas eu de réponse.
Vous avez la réponse, Johan Farber?
Évidemment.
J'espère,
bien évidemment.
Dites-moi.
Non, moi, je comprends parfaitement le sens des questions qui sont répétées et ensuite des réponses qui ne sont pas trouvées, parce que si on peut s'arrêter sur le titre, La Realidad, c'est effectivement c'est ce village dont on parlait au début, mais c'est aussi un paradoxe qui court tout au long du livre, à savoir une jeune femme qui prépare un doctorat de littérature, c'est-à-dire Neige Sino, et qui voyage au Mexique et qui justement est obsédée par les représentations. Elle le dit très très bien, elle vit en fait totalement écartelée, totalement clivée en fait entre d'une part sa fascination pour la littérature qui est une somme de représentations et ce qu'elle désire, à savoir un bain de réel. Mmh. Et ce bain de réel, elle est dans la douleur de ne pas pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire que la réalité est présente en tant qu'elle ne peut pas l'atteindre. Et c'est justement l'objet de ce premier chapitre que vous n'avez pas apprécié, que moi j'ai beaucoup aimé, parce que effectivement, comme vous au début, j'ai été effectivement un peu frustré, et à ma relecture, j'ai compris en fait que la chute de ce chapitre, à savoir elle n'arrive pas avec son ami au village de la Realidad, constituait en fait l'objet même de ce chapitre, à savoir l'écriture ne peut pas atteindre la part de sensible qui nous manque. Et je crois que...
Est-ce que c'est pas trop théorique ça, par exemple, pour un roman ?
Alors, tel que je l'expose, ça peut l'être, tel que le livre parfois l'expose, ça l'est également parce qu'il ne faut pas en faire l'économie. Mais je pense que ce qui fait de ce livre un livre de prix, en tout cas à mes yeux, c'est la manière dont le sensible est une question dont on cherche à chaque fois à trouver finalement. Beckett avait une expression qu'elle n'emploie pas, mais qui moi m'a traversé l'esprit au moment où je lisais La Realidad, c'est la réalité, c'est peut-être une insurrection d'atomes. Et je trouve que cette insurrection d'atomes qui est au cœur de l'œuvre de Beckett et qui est aussi au cœur de l'œuvre de Nelsino rend bien compte du caractère parfois insurrectionnel de certains passages, c'est-à-dire digressif. On ne sait pas très bien pourquoi, d'un seul coup, elle se lance dans des réflexions sur le décolonial. Et puis, après, je crois que, de manière générale, cette odyssée du sensible, cette odyssée existentielle, pose la question de l'interprétation. C'est-à-dire que, pour elle, elle a le sentiment de ne pas écrire. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Elle le dit, elle le répète à plusieurs reprises. Elle n'écrit pas. L'écriture va lui servir à interpréter. Mmh. Et en fait, c'est le rapport qu'elle avait déjà dans Triste Tigre, à savoir la littérature. Est-ce que la littérature va me servir? Est-ce que la littérature prolonge ou prophétise le mal? Est-ce que la littérature est un prophète? Ou au contraire, est-ce que moi, avec la littérature, je vais pouvoir m'en servir de guide herméneutique ou en tout cas interprétatif pour savoir qui je suis? Elle parle d'une chronique d'un exil, et c'est cet exil, à la fois elle est dans la littérature, hors de la littérature, et c'est cette tension permanente qui pour moi fait le prix de ce livre.
Marie, un dernier mot, vous disiez quand même qu'à la fin, elle a fini par vous attraper.
Oui, notamment sur le dernier chapitre où elle retourne une énième fois au Mexique, cette fois-ci seule, sans sa fille, parce qu'elle y va aussi avec sa fille. Il y a une transmission aussi qui se joue sur ces luttes des femmes zapatistes, et donc elle y retourne. On s'imagine ça dans un présent assez récent, et elle va assister à un colloque, enfin une manifestation des femmes zapatistes qui font 3 jours de réunion. Et donc il y a 7000 femmes qui sont réunies dans un petit village au Mexique et elles sont là pour se parler, pour essayer de voir comment on peut s'entraider en tant que femme aujourd'hui. Et là, il y a une mise en réflexion qui m'a semblé intéressante, c'est qu'elle elle a été très touchée par ce qu'elle a vécu pendant ces 3 jours-là, sans l'expliquer, hein, toujours, on est juste sur la constatation, mais quand même, on sent que ça l'a marquée. Mais il y a ce coup de téléphone avec un ami et dont la femme... était aussi à ce rassemblement-là, et au téléphone elle lui dit oui, enfin bon, quand même il s'est pas passé grand-chose, c'était très désordonné, on comprenait rien. Enfin, cette personne désacralise complètement ce moment, et je trouve que là il y a une tension réflexive où elle dit bah non, en fait, en effet, c'était pas du tout comme on pouvait l'imaginer, je sais pas, à Nuit debout par exemple, où tout ça était très organisé. On était au cœur du Mexique dans un petit village, c'était des femmes qui se levaient, et en effet c'était complètement bordélique, mais pour elle il s'est passé quelque chose d'immensément important, parce que les femmes ont pris la parole et notamment ont mis sur la table le problème des violences contre les femmes au Mexique, qui, on le sait, est un problème immense à gérer, et notamment aussi le problème sur les violences sexuelles sur les enfants. On sait à quel point Nelsino est touchée par ce sujet-là. Elle l'effleure, elle y va pas du tout, le lecteur sait ou ne sait pas, mais c'est pas son sujet. Après, on sent dans ces phrases-là qu'elle a été touchée. Donc ce dernier chapitre où elle est beaucoup plus au présent et où elle essaie, je trouve, de mettre une tension dans ce qui lui est arrivé ces 3 jours-là, là je l'ai trouvé très juste et réussi, mais c'est les 30 dernières pages du livre. Et donc tout le départ, j'étais un peu moins conquise, même si je suis d'accord avec vous, Johan, sur ce que vous avez dit. Elle dit d'ailleurs au début, c'est très étrange d'aller dans un pays qu'on ne connaît que par sa littérature. Elle cite notamment Bolaño, qui est le grand auteur professeur qui a parlé de ces régions-là. Et ça, c'est une idée qui est intéressante. En disant, en effet, elle a tout lu sur le Mexique. Et en fait, elle y arrive. Et bah, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a lu. Ou en tout cas, les réalités sont plus complexes et plus nuancées. Et ça, c'est intéressant. Mais encore une fois, elle ne fait que le dire. Et il n'y a pas de développement. Moi, j'ai été quand même frustrée intellectuellement par ce livre.
La Realidad de Neige Chino, c'est chez POL. Carole Boinet, c'est le moment de votre coup de cœur.
Et oui, un coup de cœur pour un livre qui s'appelle « Ni muse, ni groupie » de Chloé Thibault et qui commence ainsi. Tout commence avec le syndrome de l'imposteur, celui qu'on s'acharne à genrer au masculin, alors qu'il hante principalement les femmes de ce monde. C'est la chanteuse Flore Benguigui qui l'écrit dans la préface du livre, sorti hier aux éditions Le Duc. Pour rappel, Flore Benguigui a longtemps été à la tête du groupe à succès L'Impératrice, avant de claquer la porte et de raconter à Mediapart ses 9 années d'humiliation, d'emprise et d'isolement. Alors pourquoi les femmes auraient-elles un syndrome de l'imposteur dans le milieu musical? Bah, parce qu'elles peinent à y trouver leur place, pardi. C'est simple, on ne leur en fait pas. Où on les rabaisse au choix. Depuis leur création en 1985, les Victoires de la Musique n'ont par exemple récompensé que 10% d'artistes féminines dans la catégorie meilleur album. C'est pour prouver que les femmes ont eu d'autres rôles que ceux de muse et de groupie dans l'histoire de la musique que la journaliste Chloé Thibault a écrit ce livre. Et puis, parce qu'elle s'est aperçue qu'au conservatoire de musique, on lui avait appris à jouer du Bach et du Mozart, mais jamais du Clara Schumann ou du Fanny Mendelssohn. Alors Chloé Thibault nous retrace toute l'histoire des femmes et de la musique, patriarcat et féminisme, tous deux inclus. On commence avec le chant des sirènes qui perd les marins chez Ulysse. On rencontre Hildegard von Bingen, géniale abbesse et musicienne du XIIe siècle, mais aussi Colette Renard, les Destiny's Child, France Gall et ses sucettes, Clara Luciani et sa fameuse grenade. Référencé et au franc-parler, ce « ni muse ni groupie », super slogan, est rythmé de 20 entretiens exclusifs avec des artistes femmes. Katia Labeck, Yel, Françoise Hardy, depuis décédée, Iseut, mais aussi Sheila, qui lâche. C'est 10 fois plus difficile de réussir dans ce métier pour une fille que pour un mec. C'est ça qu'il faut savoir et je trouve que ça n'a pas évolué. Plus loin, sur l'agisme, elle dit « un chanteur qui vieillit devient très beau, alors qu'une chanteuse qui vieillit, on l'arrange chez elle ». Il y a la chanteuse Pomme aussi, qui raconte avoir très mal vécu ses débuts à 16 ans dans une maison de disques où tous les postes de direction et de pouvoir étaient occupés par des hommes, où les rares femmes lui disaient comment s'habiller et se maquiller, où des hommes de plus de 35 ans lui écrivaient ses textes, à elle, jeune adolescente, car elle n'était soi-disant pas assez mature pour les signer elle-même. Plus loin, Yael raconte comment l'animateur Coé l'avait embrassée sur la bouche par surprise en plein direct de son émission télé. Des témoignages importants à l'image de ce livre qui nous propose une autre histoire de la musique primordial à raconter et à relayer. Je vous propose qu'on se quitte avec des chiffres un peu effarants. En 2019, seulement 14% de femmes étaient programmées dans les festivals de musique actuelle et 22% dans les festivals de musique classique.
À la veille du 8 mars, ça tombe très bien quand même.
C'est exactement pour ça que j'ai choisi ce livre.
Chronique, voilà. Merci beaucoup Carole Boinet. Je rappelle « Ni muse, ni groupie » de Chloé Thibault aux éditions Le Duc.
12h-13h30 Les midis de culture. Marie Laborie.
Un président de la République qui a raté sa réélection sombre dans l'alcool. Sa nouvelle femme, qui est actrice, se détache de lui et plonge, elle, dans le star system. La nouvelle chef de l'État est une populiste d'extrême droite. Bienvenue dans La guerre par d'autres moyens, le nouveau roman de Karine Thuil, qui vient de paraître chez Gallimard. L'auteur des Choses humaines, prix Interallié et Goncourt des lycéens en 2019, s'attaque, on l'aura compris, aux effets du pouvoir, mais aussi à la question des violences sexistes et sexuelles. On commence par un avis rapide, Marie Sorbier.
Bon, alors, ce n'est pas de la grande littérature, malheureusement, ce que nous propose Karine Thuil. Alors, certes, il y a un savoir-faire de l'autrice, parce qu'elle maîtrise ses sujets, c'est-à-dire la politique comme spectacle et le cinéma comme industrie malsaine. Hein, c'est vraiment les deux pôles de ce livre-là. Elle déroule un peu son intrigue comme une série télé, c'est-à-dire chapitre court, avec un faux suspense, puis ça coche bien toutes les cases qu'il faut cocher. Mais, alors, c'est plaisant à lire au début, je suis obligée de le dire. Il y a un petit plaisir coupable à lire ce genre de livre-là. Mais alors, ça s'oublie très vite. Moi, il m'en reste pas grand-chose. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'elle ne développe aucune idée majeure dans ce livre, me semble-t-il.
Johan Farber.
Ben, je suis absolument du même avis. Je trouve que le livre est très plaisant à lire, mais finalement assez désagréable. Parce que pour moi, c'est un page-turner. C'est le modèle même du page-turner, mais sans saveur. À savoir que, effectivement, il évoque la question de la politique. Il ne pose pas de questions à la politique. Et plus grave, il... En fait, il y a la question des violences sexuelles. Et dans le livre, c'est un thème, mais c'est pas une question. Et je trouve que là où le questionnement devrait être politique, ça devient la source d'un divertissement et c'est très, très, très gênant.
Marie Sorbier, alors, efficace quand même, c'est ce que vous disiez.
Efficace parce que c'est ce que vient de dire Johan, c'est-à-dire qu'on le lit. Ça se lit très vite, il faut le dire. C'est vraiment, vous savez, il y a certains collègues critiques qui emploient cette expression. C'est un roman qui remplit ses promesses. C'est-à-dire que quand vous lisez la quatrième de couverture, il y a exactement ça à l'intérieur. C'est-à-dire un ancien président de la République. Qu'on peut situer entre, moi je l'ai vu entre Sarkozy et Hollande, vous voyez, une espèce de mélange un peu comme ça, un peu Bruno Le Maire aussi, parce que ce président de la République à la retraite, il écrit un livre et il y a un passage érotique à l'intérieur qui est repris par toute la presse. Donc il y a des espèces de petits clins d'œil comme ça à la vie politique française contemporaine, chacun y vira ce qu'il voudra. Mais voilà, donc on a ce président qui, évidemment, une fois qu'il a perdu le pouvoir, il est devenu alcoolique parce que le pouvoir rend addict. Il est évidemment marié à une actrice de cinéma très belle pour qui il a quitté sa première femme qui, elle, est romancière. Enfin, tout est complètement caricatural. Tous les personnages qui s'approchent sont tous caricaturaux. Et surtout, elle n'en fait pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est efficace parce qu'on tourne les pages et qu'on veut savoir ce qui va se passer. Mais finalement, quand même, à partir du milieu du livre, moi, l'efficacité s'est un peu perdue. Parce que, et là, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, les sujets qu'elle traite, qui sont quand même des sujets importants, sont traités à la façon d'un divertissement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle n'en fait rien. Le réalisateur de cinéma qui va voir son film sélectionné à Cannes, ça, c'est toute la seconde partie du roman, qui est en gros un pervers à la fois moral et sexuel. Enfin, c'est vraiment l'archétype du réalisateur de cinéma qu'on ne veut plus voir sur les plateaux. Mais elle le décrit quand même comme assez séduisant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très claire dans sa vision et dans ce qu'elle présente. Il est finalement, ça serait un bon père de famille. Enfin, elle instille des idées comme ça, comme quoi ce gars qui se comporte quand même très très mal avec toutes les femmes autour de lui, bon, bah c'est quand même un grand réalisateur et son film, il est génial. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On l'élimine parce que c'est pas un bon humain, mais on prime son film. Enfin voilà, toutes ces questions-là qui sont et d'actualité et super intéressantes à traiter dans un roman, en fait, elle n'en fait pas grand-chose, voire rien. Et ces personnages sont vraiment tous de l'ordre de la caricature. Il n'y en a pas un. Peut-être l'ancienne femme qui est la romancière, d'où vient le film qui est tiré, qui est un peu plus humaine. Et d'ailleurs, c'est la seule personnage qui parle au jeu J.E. Tous les autres sont à la troisième personne. Mais voilà, globalement, on est quand même sur une grande fresque caricaturale du monde d'aujourd'hui entre politique et cinéma.
Johan Ferber, politique, mais en plus, à votre avis, elle ne questionne pas la politique.
Elle ne questionne pas la politique parce qu'en fait, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est néanmoins ce que je pense, il n'y a pas d'écriture dans ce livre. En fait, le problème, c'est qu'on assiste ici à un roman scripté. C'est-à-dire, c'est comme si ce livre était le résumé d'un livre qu'on n'aurait pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fatigue à raconter les scènes où finalement, on a quelques notations. C'est finalement un petit peu comme un synopsis, voilà, on nous résume la scène pour aller très très vite, il y a que des verbes d'action, donc il faut que ça aille très très vite, et au bout du compte, en fait, on aboutit plutôt à des thèmes qu'à des questions. Par exemple, sur l'écriture, il y a effectivement ce personnage de Marianne, qui est la première femme du président, qui est romancière, qui écrit un livre inspiré de Philippe Roth à la recherche du désastre. On serait très méchant de dire que c'est un petit peu aussi le sous-titre qu'on pourrait mettre à pas mal de passages, mais en fait, plus...
C'est très méchant.
Plus sérieusement, en fait, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que le livre n'a pas d'écriture, mais est obligé de mettre en scène un personnage d'écrivain. Comme si, en fait, comme si, en fait, on rachetait par ce personnage d'autrice l'absence d'écriture du livre. Et c'est pareil aussi sur la question de la politique. Elle ne choisit pas par hasard un président sur le déclin, c'est-à-dire que, en fait, c'est une sorte de renoncement au pouvoir de la politique et au pouvoir de la littérature. Tout est éminemment clichéique, caricatural. Voilà, il écrit un roman sur Marx, ça s'appelle L'amour et la lutte. Et moi, ce qui me choque profondément dans ce livre, c'est la folklorisation de tout. C'est-à-dire que le marxisme rentre dans un espèce de folklore. Les violences sexuelles aussi rentrent dans un espèce de folklore.
Je voudrais qu'on revienne là-dessus. Apparemment, c'est quelque chose qui vous a choqué, le traitement de la question des violences sexuelles.
Oui, parce que ça devient un ressort dramatique. C'est-à-dire que, en fait, le livre À la recherche du désastre traite des violences sexistes et sexuelles et on n'a pas d'extrait du livre. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Ça se passe dans un milieu ouvrier. Où on ne comprend pas très bien. Il y a le film ensuite qui est adapté. Donc, on n'a pas de scène du film, on n'a pas de script, on ne voit pas très bien. Mais, en fait, le film va être sélectionné à Cannes et après, le réalisateur, comme l'a indiqué Marie, va être rattrapé par une histoire de violence. Mais il n'y a aucun discours qui est tenu, et pire que tout, il n'y a pas de problématisation de la question. La romancière, on ne sait pas, alors qu'elle est la seule à s'exprimer à la première personne dans une série de monologues qui d'ailleurs sont les mieux, qui sont les seuls, qui sont écrits du livre, il faut quand même dire les choses, et elle ne se pose pas la question de la violence, elle est vraiment, ça devient un thème, et il y a une expression que Karine Thuil emploie à propos des autrices dans son livre, et qui moi m'a fait terriblement penser à la manière dont elle traitait elle-même ses personnages, c'est-à-dire des marionnettes d'agrément. Elle dit les autrices sont de nos jours traitées sur les plateaux, radio, télé, comme des marionnettes d'agrément, et je pense que elle-même redouble ce geste dans un malaise qui accompagne de manière croissante la lecture jusqu'au dénouement final qui franchement...
Ne le racontez pas.
Je ne le raconte pas, mais qui franchement, moi, m'a fait pousser des petits cris d'orfraie sur mon canapé quand je l'ai lu l'autre jour. Oui, quand j'ai lu l'autre jour, parce que j'ai été en fait outré, je peux le dire, par la manière dont, dont la fin était traitée, il faut quand même le dire.
En plus, ce qui était vicieux, c'est qu'elle a créé un personnage dans toute cette constellation qui aurait pu porter cette parole-là, qui est la fille du président, qui est présentée comme une gauchiste féministe, si je résume.
Caricaturale.
Complètement woke, mais qui aurait pu, enfin, dans les premières pages, quand ce personnage apparaît, je me dis, bah voilà, c'est elle qui va porter quand même la parole. Mais alors, je vous le donne en mille, elle rencontre le fameux cinéaste et elle tombe amoureuse de lui. Donc voilà, la parole est finie. C'est muselé, elle lui envoie des messages sur Instagram et puis il lui répond pas, donc les hommes sont tous des salauds, lui aussi, mais voilà, point. Donc toute cette portée de violence sexuelle et sexiste qui aurait pu être défendue par cette jeune femme, ça aurait eu du sens, ne l'est pas, parce qu'elle tombe amoureuse du cinéaste, de l'artiste. Donc,
Pourrait-il que ce soit une ironie qu'on n'ait pas compris ?
Non, il n'y a pas d'ironie. Non, je crois qu'il n'y a pas d'ironie du tout. D'ailleurs, elle cite cette phrase de De Gaulle qui, pour moi, est vraiment le résumé du livre. Elle dit « Il n'y a que les arrivistes pour arriver ». J'ai quand même eu l'impression, moi, que c'était quand même un livre avec un arrière-goût opportuniste énorme, c'est-à-dire qu'elle coche toutes les cases du moment et elle n'en fait rien à part un divertissement. Donc voilà, on tourne les pages, on lit ce livre, puis on n'a rien appris à la sortie. Et c'est même, en effet, il y a un malaise qui s'installe et le plaisir qu'on a pu prendre au gossip à ces potins du départ, en fait, s'éteint assez vite parce qu'à la fin, ça devient problématique.
Un dernier mot, Yann Farber.
Oui, je vais citer Karine Thuil et je pense que ça reflète assez bien son écriture. Elle dit à propos d'un personnage, il entrait dans l'époque avec ses gros sabots. Et je pense qu'effectivement, là, elle aurait mieux fait de mettre des patins sur le parquet parce que, effectivement, ça glisse.
Merci beaucoup. C'était donc La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil, paru chez Gallimard. Marie Sorbier, Yann Farber, merci à tous les deux d'être venus. Carole Boinet, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et toutes les infos, toutes les références de La guerre par d'autres moyens et La Realidad de Neschino sont évidemment sur la page des Midi de Culture. Maintenant, vous qui nous écoutez, bien c'est à vous de vous faire une idée, après tout.